Aujourd'hui, je vais vous présenter System Center Configuration Manager 17.02. Donc, cette vidéo est à l'initiative de la communauté CMD pour Cloud Mobility Data Center. Vous pouvez nous retrouver sur cmd.community, sur Twitter via le nom d'utilisateur cmd.com ou sur Facebook via en cherchant CMD Communauté. Je me présente, Jean-Sébastien Duchesne, je suis MVP Enterprise Mobility, donc sur l'ensemble des technologies qui gravitent autour de l'environnement utilisateur, du poste de travail et des périphériques mobiles, et plus particulièrement System Center Configuration Manager. Vous pouvez me retrouver au travers de différents canaux, donc sur mon blog à www.windowstouch.fr, sur Twitter en cherchant le nom d'utilisateur Microsoft Touch, ou par exemple sur LinkedIn via mon profil. Donc dans cette vidéo, nous aborderons les grands thèmes, c'est-à-dire les grandes nouveautés de System Center Configuration Manager 17.02, à savoir ceux qui gravitent autour de Windows 10 et Office, les mises à jour logicielles, la simplification et les performances du produit, toutes les nouveautés qui sont dues au retour fait par les utilisateurs au travers de la plateforme User Voice. Et puis finalement, un enjeu important, c'est faciliter l'accès aux services, notamment aux services cloud. Donc dans System Center Configuration Manager 17.02, Microsoft a mis un point d'honneur à améliorer le support de Windows 10 et Office. Cela passe tout d'abord par le support complet de la nouvelle version de Windows 10, qu'on appelle Creators Update, en version 17.03, qui passe notamment par le support du système d'exploitation et des fonctionnalités proposées par ce système. Vous pourrez notamment mettre à jour, si vous avez une infrastructure System Center Configuration Manager, l'ADK que vous utilisez vers la nouvelle version de l'ADK 17.03. Parmi les autres nouveautés, et ceci est une fonctionnalité qui est toujours en pré-version, on retrouve la simplification du déploiement et de la gestion de la fonctionnalité Device Guard, notamment par la création de stratégies Device Guard. Donc, Device Guard est un mécanisme inhérent à Windows 10 dans la version, dans l'édition Enterprise, qui permet d'exécuter uniquement les applications de confiance, les applications qui ont été signées par des éditeurs de confiance, de manière à éviter que des applications malicieuses viennent à s'exécuter sur un système donné. Parmi les autres nouveautés, on va retrouver des nouveautés relatives à Office 365 et à l'installation donc du client, avec la configuration des différents paramétrages d'installation, le téléchargement des fichiers et des dernières versions d'Office 365 depuis l'Office Content Delivery Network, et puis bien entendu la création de manière automatique des applications dans System Center Configuration Manager et bien entendu leur déploiement. Donc, pour vous représenter un petit peu ceci, sur une version System Center Configuration Manager 17.02, vous pouvez vous diriger dans la partie Software Library. On retrouve un nœud Office 365 Client Management qui était déjà existant auparavant. Si vous cliquez sur ce nœud, on va retrouver un tableau de bord dans lequel on va retrouver des informations liées au déploiement d'Office 365 dans l'infrastructure existante. Et une des particularités permet bien entendu donc de pouvoir suivre ces déploiements. Donc avec le nombre de clients, les versions du client. Ce tableau de bord était déjà présent dans les versions précédentes du produit. La grande nouveauté donc c'est de pouvoir, comme je vous le disais, créer donc une application directement depuis ce tableau de bord-là en cliquant donc sur cet espace. Ceci va lancer donc un assistant dédié qui va permettre de créer l'application et de récupérer le contenu depuis l'Office Content Delivery Network. Vous permettant de faciliter finalement toute l'opération de création de l'application. Donc, on va pouvoir spécifier bien entendu le nom de l'application, importer éventuellement des paramétrages clients, choisir les produits que l'on souhaite installer, les différents paramétrages du client et puis tous les scénarios de déploiement, de récupération de contenu, de planification au sein même d'un assistant unique. Autre point sur lequel Microsoft a travaillé, donc c'est faciliter l'accès aux différents services. Cela passe par la création d'une connexion avec Azure Active Directory. Donc auparavant, cette connexion en fait était nécessaire pour différents services, notamment la Cloud Management Gateway. En fait, au travers des dernières versions de System Center Configuration Manager, on voit un certain nombre de services cloud se connecter à cette infrastructure on-premise, et systématiquement, on avait la nécessité de créer une connexion Azure Active Directory. Donc Microsoft a rationalisé cette opération en créant une connexion dédiée et une opération de création de connexion dédiée dans la partie administration du produit. Parmi les autres capacités, et celles-ci sont plus ciblées sur le déploiement d'applications, on retrouve la capacité de déployer des applications sous licence en ligne, donc en mode online, au client Configuration Manager, donc aux machines qui possèdent un client SSM. Un des gros enjeux aussi de cette version-là concerne donc les mises à jour logicielles, avec notamment le support de ce que Microsoft appelle Express Files Update, donc pour Windows 10 uniquement. Cette fonctionnalité existe depuis de nombreuses années dans WSUS, hein, on peut notamment la cocher dans les propriétés d'un serveur WSUS. Elle n'était pas implémentée dans System Center Configuration Manager, puisque le besoin n'était pas directement présent dû au mode distribué des points de distribution, etc. Mais avec l'arrivée de Windows 10, et des correctifs cumulatifs, la charge nécessaire pour le téléchargement des mises à jour et notamment des correctifs cumulatifs, ainsi que l'espace disque utilisé sur les clients, nécessite de plus en plus de pouvoir télécharger uniquement les binaires dont les clients ont besoin pour mettre à jour Windows. Donc, le principe, c'est de pouvoir faire de pouvoir utiliser un mécanisme de mise à jour incrémentielle de manière à optimiser donc l'usage de la bande passante et l'espace disque sur les clients comme je le disais plus tôt. Donc cette fonctionnalité est désactivée par défaut car elle augmente la taille nécessaire sur notamment les points de distribution puisqu'on va retrouver un certain nombre de fichiers qui vont être éventuellement dupliqués. Et autre prérequis, cette fonctionnalité va nécessiter donc Windows 10 16.07 avec donc l'AKB 321-3986, qui est le correctif cumulatif à date de janvier 2017. Donc, si je vous montre assez rapidement, on va pouvoir agir sur ce paramétrage au travers donc de la partie administration, dans Site Configuration, puis dans Sites. Vous allez pouvoir sur votre site, donc via la configuration donc des composants de site, et donc plus particulièrement du composant Software Update Point, vous allez pouvoir retrouver un onglet Update Files, dans lequel par défaut, l'option consiste à télécharger l'ensemble, les fichiers complets d'installation, donc des mises à jour, les binaires complets. On peut donc cocher la case permettant de télécharger à la fois les fichiers complets pour donc l'ensemble des mises à jour logicielles, ou les fichiers d'installation express pour Windows 10 uniquement. Donc dans System Center Configuration Manager, comme je le disais, cette fonctionnalité ne s'applique qu'aux mises à jour Windows 10, contrairement à WSUS où, lorsque vous activez l'option, cette dernière s'applique à l'ensemble des mises à jour et l'ensemble des produits. Donc en appliquant ce paramétrage, vous allez pouvoir commencer à utiliser la fonctionnalité. En outre, il faudra, via les paramétrages clients, via les stratégies clientes, activer l'usage de ces fichiers, donc ça va se faire bien entendu dans les propriétés, dans la catégorie Software Update, on va pouvoir retrouver donc un paramétrage Enable Installation for Express Installation Files on Clients que vous allez pouvoir passer donc à oui et définir éventuellement donc le port utilisé pour récupérer le contenu des fichiers d'installation en mode express. Parmi les autres capacités que l'on va retrouver liées à la gestion des mises à jour logicielles, on va pouvoir maintenant utiliser dans l'accès conditionnel le choix de valider la conformité donc des mises à jour logicielles. C'est-à-dire que de manière à ce qu'un client puisse accéder aux ressources de l'entreprise, à Office 365, un des prérequis, ça va être d'assurer donc que la conformité vis-à-vis des mises à jour logicielles soit faite. Autre capacité très intéressante, c'est l'utilisation donc des cloud distribution points, des cloud DP, pour héberger des packages de mise à jour logiciel. Donc auparavant, ce n'était pas possible. Microsoft privilégiait pour les clients gérés en mode Internet l'utilisation de l'option qui vise à dire aux clients de se rabattre sur Microsoft Update. C'est maintenant donc possible d'utiliser les Cloud Distribution Points pour héberger des packages de mise à jour logiciels, principalement pour couvrir le scénario de déploiement des mises à jour tierces en mobilité, donc à savoir les mises à jour Adobe, HP, Dell, ou que vous auriez pu créer donc via System Center Update plus Publisher. Cette capacité intervient principalement puisque Microsoft investit énormément donc dans le scénario de mobilité, avec notamment le mécanisme de Cloud Management Gateway qui reste toujours en pré-version actuellement, mais qui devrait arriver dans les prochaines versions. Parmi les autres mécanismes donc de simplification et les mécanismes liés à la partie performance, donc Microsoft dans la version 16.10 a amélioré le concept des Boundary Groups, permettant plus de contrôle sur le comportement, notamment de bascule pour les points de distribution. Donc maintenant, on peut contrôler le temps de bascule, les différentes relations entre les groupes de limite, de manière à ce que les clients utilisent tel ou tel groupe de tel ou tel point de distribution lorsque le point de distribution de son groupe de limite préféré n'est pas disponible. Dans la version 17.02, on retrouve le support des software update points, donc Microsoft étend cette fonctionnalité au software update points de manière à pouvoir exactement gérer vers quel software update points le client doit s'adresser et éventuellement basculer si son software update point préféré n'est pas disponible. Autre capacité donc qui va ravir un bon nombre de clients, c'est la capacité donc d'inventorier nativement les périphériques UEFI par l'ajout d'une nouvelle classe d'inventaire. Donc si je navigue dans la partie Boundary Groups, je vais pouvoir par exemple prendre donc un de mes groupes de limites. Et donc dans la partie référence, je vais pouvoir bien entendu ajouter un software update point et éventuellement donc ajouter une relation. Hein, donc de manière fictive, je vais choisir cette dernière. Et on va retrouver, comme vous voyez, les différents temps de bascule, donc à la fois pour les points de distribution, mais aussi pour les software update points. Autre fonctionnalité donc nouvellement intégrée en pré-version, c'est le rôle Data Warehouse Servicing Point qui va permettre donc du stockage de données à plus long terme. Donc là aussi, c'était une demande assez fréquente des clients pour éventuellement donc générer un certain nombre de rapports, notamment pour les infrastructures de taille importante. Donc ce rôle va supporter jusqu'à 2 terabits de données avec donc un timestamp sur les données permettant de traquer éventuellement les changements. Donc le principe, c'est de se dire qu'on va avoir ce rôle Data Warehouse Service Point qui va faire un certain nombre de synchronisations entre la base de données de site, la base de données du Data Warehouse, qui pourra être ensuite exploité par le rôle par le Reporting Services via des rapports. Toujours dans la catégorie donc simplification et performance, on retrouve un certain nombre d'éléments relatif au mécanisme donc de mise à jour, de mise à niveau de System Center Configuration Manager, donc qu'on appelle Update and Servicing. Le premier, donc, c'est le déplacement d'une Update and Servicing à la racine de l'espace administration, donc de manière à ce que ce dernier soit un petit peu plus visible et surtout que il n'y ait pas de confusion avec auparavant donc le nom du nœud qui était Cloud Services. L'autre principe, c'est que à partir de donc cette version 17.02, l'outil va télécharger les dernières versions de System Center Configuration Manager, les dernières versions applicables. Donc par exemple, si vous arrêtez votre site à date d'aujourd'hui, que vous le redémarrez dans, imaginons, 1 ou 2 ans, il va télécharger donc la dernière version qui sera à disposition dans 1 ou 2 ans et qui sera donc éventuellement applicable. Autre point, l'outil va par défaut afficher un avertissement pour inciter donc le téléchargement et l'installation des dernières builds. Donc si vous, par exemple, votre site aujourd'hui, si votre site est en version 17.02, que Microsoft sort une 17.06 et puis une 17.10, si au moment où la 17.10 est présente, vous tentez d'installer la 17.06, alors un avertissement va s'afficher vous incitant à installer la 17.10. Autre capacité, donc on retrouve la capacité de nettoyage du dossier Easy Setup Payload. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui commençait à devenir un petit peu problématique puisque l'ensemble des versions étaient téléchargées et le nettoyage n'était pas forcément fait dans ce dossier. Autre point, c'est l'amélioration donc du téléchargement à la demande lorsque le site est mis dans un mode hors ligne via l'outil Service Connection Tool, qui permet donc de ne télécharger que les dernières versions, là aussi, de System Center Configuration Manager. Voire éventuellement, lorsque vous utilisez une option supplémentaire, un paramètre supplémentaire, de ne télécharger que les derniers, que les correctifs. Parmi les retours utilisateurs faits sur UserVoice, on retrouve notamment une fonctionnalité qui est l'une des plus demandées aujourd'hui, qui reste toujours en pré-version à cette date, mais qui permet donc d'améliorer l'expérience utilisateur, notamment pour fermer les applications qui bloqueraient éventuellement une installation ou un déploiement. Donc, c'est comme je le disais, l'un des premiers retours sur UserVoice. L'administrateur va permettre de spécifier les processus, de définir lui-même les processus qui vont éventuellement bloquer l'installation. Donc, par exemple, dans le cas de l'imprimé écran qui est présent ici, Notepad, Firefox, etc. Et donc, cette fonctionnalité permettra de supporter à la fois les déploiements donc en libre service ou les déploiements obligatoires. Parmi les autres retours faits par les utilisateurs, on retrouve notamment l'amélioration donc du déploiement de système d'exploitation avec une fonctionnalité pour laquelle j'en suis fier puisque j'ai participé à l'élaboration de cette petite fonctionnalité. C'est le support donc de l'option Previous lors de du démarrage d'une séquence de tâches. Le but est de couvrir les scénarios où lorsque vous lancez le déploiement du système d'exploitation. La séquence de tâches n'est pas encore déployée ou disponible, ou alors une partie du contenu, comme par exemple un package en particulier, n'est pas disponible sur le point de distribution auquel le client doit faire référence. Parmi les autres capacités qui ont été ajoutées, la capacité de sélectionner plusieurs applications dans la tâche Install Application, donc lorsque vous devez sélectionner les applications que vous souhaitez ajouter à cette tâche. On a la possibilité maintenant de sélectionner plusieurs applications à la fois. On retrouve aussi une capacité permettant de configurer un timeout pour la tâche d'application automatique des drivers. On retrouve en pré-version la capacité de pré-télécharger donc du contenu avant l'exécution d'une séquence de tâches, notamment dans le scénario de mise à niveau d'un système d'exploitation. De manière à ce que finalement tout le contenu soit présent au moment où la séquence de tâches de mise à niveau de Windows 10 s'exécute. L'ADK Windows 10 est maintenant traqué par un numéro de version, donc ce qui permet véritablement de mieux suivre la version que vous utilisez. Et enfin, on retrouve différentes capacités permettant l'amélioration des scénarios de conversion donc du BIOS à l'UEFI. Avec des variables qui vont pouvoir être utilisées pour instruire le système à redémarrer dans un certain mode. Donc on n'a pas de modèle par défaut à proprement parler de conversion du BIOS à l'UEFI. Néanmoins, ces nouvelles variables qui sont disponibles permettent de couvrir les scénarios et éventuellement donc d'utiliser les outils provenant des éditeurs, des fabricants pour convertir vos PC donc du modèle BIOS à l'UEFI. Parmi les autres points, et notamment un qui n'est pas listé ici, il n'est plus possible maintenant de modifier le répertoire source, donc des images de boot par défaut, des images de démarrage par défaut. Parmi les autres capacités, on retrouve la personnalisation donc des avertissements du Software Center pour le déploiement de systèmes d'exploitation, donc pour tout ce qui est séquence de tâches dites à haut risque. On va retrouver donc dans les propriétés des séquences de tâches la capacité donc de personnaliser l'ensemble des avertissements que l'utilisateur va voir lors de l'installation de cette séquence de tâches. Ceci concernait donc les fonctionnalités qui s'adressaient principalement donc à la gestion dite traditionnelle. On va faire un focus donc sur la gestion hybride, donc couplée à Microsoft Intune. Avec toujours dans la partie de facilitation donc, de l'accès au service, un certain nombre d'améliorations vis-à-vis donc, du programme Volume Purchase Program, donc VPP, proposé par Apple pour iOS, avec notamment donc, le support d'iOS VPP pour éducation. Donc, on retrouve un programme spécifique au monde éducation, c'est aujourd'hui supporté donc, dans un mode hybride. Le support donc, de l'ajout de plusieurs tokens VPP. à un seul donc tenant Microsoft Intune. Donc si vous avez plusieurs programmes VPP, ça peut être le cas notamment si on retrouve différentes équipes, différentes filiales qui achètent des applications pour leurs clients. Et on retrouve enfin le support donc du licensing iOS VPP donc par périphérique, notamment pour tous les scénarios donc de périphériques dits partagés. Parmi les autres capacités, on retrouve donc le support d'Android for Work, la capacité d'ajouter des applications bloquées à iOS, donc pour iOS et Android, lors de l'évaluation donc de la conformité pour l'accès conditionnel. Donc on peut dire voilà, si telle ou telle application est présente sur le périphérique, on bloque l'accès aux ressources de l'entreprise via l'accès conditionnel. Enfin, un changement plus relatif à l'administration en tant que telle, la suppression des versions de système, donc Android et iOS, pour permettre à Microsoft donc, de supporter plus rapidement de nouvelles versions. Donc, c'est une suppression partielle, hein, puisque lorsqu'on va créer des objets de configuration, en effet, on ne va plus pouvoir sélectionner les versions spécifiques d'Android ou d'iOS. Par contre, lorsqu'on va éditer les propriétés des objets de configuration ou des éléments, on va être en capacité, bien entendu, d'aller dans les plateformes et éventuellement donc de spécifier des versions spécifiques. Et sachant que, bien entendu, tous les objets courants, eux, ne sont pas non plus impactés par cette modification. Le but ici, c'est que Microsoft finalement se mette à supporter donc les nouvelles versions d'iOS et Android dès leur sortie, sans avoir à mettre à jour l'infrastructure Configuration Manager. Parmi les autres éléments visant à faciliter donc l'accès aux services, on retrouve maintenant la capacité de synchroniser et déployer des applications métiers donc depuis le Windows Store. Enfin, donc sur la gestion hybride, on retrouve des éléments qui ont été donc demandés principalement par les utilisateurs, avec l'ajout de paramétrages donc pour désactiver l'impression et la synchronisation des contacts sur les applications dites MAM, donc les applications gérées avec des stratégies MAM Android et iOS. Donc on retrouve des paramétrages supplémentaires. Le support du déploiement de certificats utilisateurs PFX qui sont éventuellement utilisés donc pour le chiffrement des emails avec SMIM. Donc on avait déjà une capacité d'injecter des certificats PFX pré-générés. Ce support est maintenant étendu donc à la fonctionnalité de chiffrement SMIM lorsque vous notamment vous créez donc des profils email. Enfin, on retrouve une capacité permettant de voir les menaces individuelles détectées sur des périphériques via la solution Lookout et donc l'intégration qui est faite avec Lookout.